Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, de retour dans les grandes gueules du sport en ce dimanche matin avec Fred Weiss, Pascal Dupras, Sarah Pitkowski. Dernière émission des grandes gueules du sport avant les Jeux Olympiques. La semaine prochaine, nous ne serons pas là, évidemment, fidèles au poste, forcément, car il y a les Jeux Olympiques et il y aura du direct. Le direct sur RMC. Sur RMC, c'est magnifique. C'est de 9h du matin à 1h du matin. Voilà, que du live. Vous saurez tout. Il y a même une radio digitale 100% bleue pour suivre toutes les performances de nos Français. Ça commence dès demain. Bref, vous allez vous régaler. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors justement, J-5 avant la cérémonie d'ouverture. Et le secret le mieux gardé de France, qui va allumer la vasque olympique? Est-ce un véritable enjeu, les GG, ou juste un symbole? C'est la seconde. Dans quelques instants, 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Un débat caché pour fêter cette fin de saison, j'ai envie de dire, de toute beauté. Franchement, très difficile à trouver, mais je pense que, enfin, c'est même sûr, ça va vous faire grandement réagir. Et puis 11h45, les GG contre-attaque. Vous avez pu vendre un sujet il y a quelques minutes sur notre antenne, mais GG, c'est à vous de choisir désormais, les auditeurs. C'est extrêmement serré. On a Alpine au fond du trou avec une nouvelle erreur de stratégie proposée par Fred Weiss, ou encore un Romain Bardet en pleurs hier après sa dernière étape de montagne, la dernière étape de montagne de sa carrière sur le Tour de France. Deux débats extrêmement serrés, 40% pour tous les deux, ok, et 20% pour notre amie Sarah. Sarah, je crois que c'est perdu, hein, je crois. Là, tu voulais parler du reflet, du relais de la flamme. Voilà, est-ce que ça manque de sportif?
Super débat. Je suis un peu déçu parce que le débat est génial.
Oui. Je suis désolé, Sarah. À mon avis, c'est foutu. Bah, elle répond plus, Sarah. Voilà, elle est vexée. Ah, Romain Bardet vient tout juste de passer devant. 41%.
Ah oui, normal.
39% ouais, pour Alpine.
Je comprenais pas pourquoi il a pas pris la tête tout de suite.
Voilà, en tout cas, vous pouvez voter. C'est jusqu'à 11h45. Et puis, sachez que dans 20 minutes, c'est le grand moment dans cette émission. Nous vous offrons deux places pour assister aux épreuves de natation le 31 juillet prochain. Ça se passe le soir. C'est donc un soir de finale avec quatre finales fantastiques. Le 100 mètres nage libre, hommes et femmes, de finale, hein. Mais également, on l'espère, si Léon Marchand est en finale, la finale du 200 mètres papillon homme et la finale du 200 mètres papillon du 200 mètres brasse. Donc voilà, quatre finales absolument fantastiques. Si vous voulez jouer, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16, le grand gagnant, c'est dans 15 minutes maintenant. On vous appellera en direct. William Shakespeare a dit un jour: qui veut élever en un instant une flamme puissante, commence par l'allumer avec de faibles brins de paille.
RMC, Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-5.
Et dans le point rouge, un champion, il est inutile de vous présenter.
Attention à la ligne, Marichaud, ça se passe bien. La dernière ligne droite, Marichaud, c'est Perrin, va déboucher en tête avec Cathy Frinot derrière. Il faut maintenant aller jusqu'au bout, Marichaud.
Gagné du monde entier, j'ai nommé.
Marichaud, c'est Perrin, se détache. Marichaud, c'est Perrin.
Franchement, moi, ça me ferait vraiment super plaisir. Je serais vraiment très, très touchée. On parle d'une équipe de France unie. Moi, je prendrais pas qu'une seule personne pour allumer la vasque, en fait. Je prendrais un homme, une femme. On dit un homme, une femme valide. Quel est le message la France, elle veut faire passer?
Dans l'air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Oh,
Zidane sur ce premier corner français.
À la pochée, il a pu jusqu'à 92 kilos.
Et but, Zidane, le double but de Zidane.
C'est les émotions, en fait.
Allumer le feu.
Qui va allumer le feu vendredi pour la cérémonie d'ouverture? Marie-Josée Pérec, Zinedine Zidane, Jean-Claude Killy, ma mère, tout est possible à l'heure où nous parlons.
Noël, ma mère?
Non. Noël, ma mère, oui.
Non, la vraie, la mienne. Qui va donc allumer la vasque olympique le 26 juillet prochain à l'issue de la cérémonie d'ouverture? Le mystère est total. Ce sera le premier temps fort de ces JO. L'image sera planétaire. Elle marque les esprits comme elle l'a déjà marqué par le passé. Antonio Rebello, par exemple, Archer en disport avait allumé la vasque grâce à une flèche enflammée et décochée dans le stade de Montjuïc en 92 à Barcelone. Mohamed Ali, déjà malade, était le dernier relayeur. En 96 à Atlanta, Cathy Freeman, athlète aborigène, avait enflammé Sydney en 2000. Bref, toujours un moment puissant. La musique qui fout les jetons est cette question. L'allumage de la vasque, est-ce un véritable enjeu ou juste un symbole? Fred Weiss.
C'est évidemment un vrai enjeu.
Sarah Pitkowski.
C'est un symbole.
Pascal Duprat.
Pourquoi tu dis juste un symbole? C'est avant tout un symbole.
Oui, oui, t'as raison. Non, non, avant tout un symbole. Oui, voilà. Oui, non, tout à fait. Ouais, oui.
Non, mais c'est pas toi que je...
Non, c'était moi.
Je,
moi, non, c'était moi.
Que je tense. C'est Jean-Christophe, oui. Pourquoi oui. Juste un symbole? C'est avant tout un symbole.
Okay.
C'est important, un symbole.
Un enjeu ou un symbole. Vous êtes deux sur le côté symbolique. Plutôt un enjeu, donc, pour notre ami Fred Weiss. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas. C'est donc le secret, je le disais, le mieux gardé de France.
Salut JC, salut à tous. Oui, Tony Estanguet et deux autres responsables de l'organisation sont les seuls à connaître le nom du dernier relayeur ou des derniers relayeurs qui embraseront la vasque olympique vendredi soir. La semaine prochaine, le patron du comité d'organisation devrait faire part de son choix au président de la République Emmanuel Macron et à la maire de Paris Anne Hidalgo. Le secret doit être conservé jusqu'au dernier moment. Même le président du CIO ne souhaite pas savoir avant le matin de la cérémonie le choix de Tony Estanguet. Alors, tous les noms sont possibles pour ce grand moment. Celui de Marie-Josée Pérec revient avec insistance depuis des mois. Une candidate qui a été omniprésente dans ce relais de la flamme olympique partout en France. Candidate idéale, attendue, mais avec ce choix, Paris 2024 ne casserait pas les codes. Autre candidat idéal, bien évidemment, Zinedine Zidane, l'ancien joueur de l'équipe de France, parle à tout le monde et possède une image ultra positive en France comme à l'international. Mais pourquoi pas le choix d'un athlète en activité qui fait vibrer la France, Teddy Riner, qui n'a pas encore porté la flamme sur ce relais. Mais comme depuis le début, Paris 2024 veut casser les codes, les idées ne manquent pas. Zidane entouré des rescapés du Bataclan et de Charlie Hebdo. L'image serait forte pour un relais collectif. Une surprise dans le protocole d'allumage n'est pas à exclure, car il ne faut pas rester fixé uniquement sur un nom. Le dernier relais pourrait être effectué avec plusieurs personnes et ce choix sera analysé, commenté, jugé, il est capital, il lancera les Jeux Olympiques de Paris 2024 et doit obligatoirement parler à tous les Français.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. J'ai d'autres choses à vous dire parce que Tony Estanguet a donné un entretien à Ouest France et il a donné quelques indices, je vous en parle dans un second temps. Est-ce un enjeu ou un symbole? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Sarah, un symbole, tu commences, pourquoi?
Un symbole, dans ta présentation, en fait, tu as utilisé exactement les exemples que j'aurais donnés pour dire à quel point le dernier porteur de flamme, en tout cas celui qui embrase la vasque, a souvent, et l'histoire nous l'a montré, été un symbole. Et je veux bien comprendre que Paris 2024, depuis que cette candidature a été attribuée à Paris et à la France en général, on veut casser les codes, mais attention de ne pas casser trop de codes. Les Jeux Olympiques, on parle de sport, de symbole, et quelle est la meilleure manière de porter de belles valeurs, c'est celle que le sport porte en fait. Et c'est un petit peu ma contre-attaque de tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'interroge, je suis même un peu déçue en fait qu'il y ait un trop grand mélange et que finalement le sport soit utilisé ou que certaines personnes veulent se leur approprier alors que le reste du temps ils en ont mais rien à secouer. Donc c'est pour ça que ce symbole du sport doit pour moi être indispensable. Et depuis le début, hein, je dis, alors peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne, hein, mais si Marie-Josée Pérec est pas là, pour moi là, on fait une énorme erreur, une très très grosse erreur. Mais comme elle le dit, aujourd'hui on peut aussi innover avec des hommes, des femmes, des personnes qui ont remporté une médaille aux Jeux Paralympiques. En tout cas, il y a plein d'idées. Mais ne nous détournons surtout pas du sport, parce que pour moi, c'est la première chose, ce sont des Jeux Olympiques et on parle de sport.
Ok, Fred Weiss.
Mais je pense exactement le contraire. Il faut se détourner du sport, justement. Alors pas sur les forcément
les
ceux qui vont allumer la basque.
Mais, on n'est déjà pas un pays de sport.
Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, mais c'est là ton problème, Sarah. C'est que tu vois à l'échelle de notre pays, et c'est un enjeu parce que c'est en mondiovision. Oui, mais c'est en mondiovision.
Et donc,
on va lancer une cérémonie qui est fantastique déjà. Fantastique parce qu'elle est novatrice, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, parce qu'elle est incroyable. Il faut qu'on marque les esprits. Il faut absolument qu'en mondiovision, les Jeux Olympiques à Paris soient incroyables, soient fantastiques. On a entendu des mots qui m'intéressent et qui m'interpellent beaucoup. Casser les codes. Capital pour lancer les Jeux. Secret. Pourquoi ce serait secret si c'était juste un symbole? On s'en fout. On dit le symbole, c'est ça et c'est tout. Non, on veut que ça soit secret parce qu'il faut que ça soit comme un feu d'artifice.
Il faut qu'il y ait l'effet waouh.
Il faut qu'il y ait cet effet.
Mais alors, c'est quoi l'enjeu
L'enjeu, c'est mondiovision. Non, l'enjeu, c'est qu'il soit mémorable de bout en bout, que et la cérémonie soit incroyable.
Qui est-ce qui rend les Jeux Olympiques mémorables dans l'histoire?
Mais Sarah, honnêtement, tu viens, t'es en train d'avoir une discussion avec moi qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'il faille pas être sportif. Je suis en train de te dire qu'il faut que ça soit mémorable et que c'est un vrai enjeu. Donc il faut choisir
mémorable, il y a quelqu'un qui va marcher, qui va aller allumer une vasque, on va arrêter deux secondes.
Il faut que ça soit incroyable. Oui, mais c'est ça ton problème. C'est que tu n'es plus Sarah. Tu n'es plus, toi tu veux des trucs tout simples.
Moi, ce
que je te propose, c'est qu'on allume une petite barque et c'est suffisant.
Non, une fois de
incroyable. Je veux qu'en mondiovision, on dise les Jeux de Paris sont incroyables, ils les ont lancés de façon fantastique, et c'est une apothéose que de voir comment on allume la vasque.
Ok, invite-toi dans le débat,
ouais,
Pascal.
En fait, je suis d'accord avec tous les deux, tout ce que vous avancez, ça se tient. De toute façon, ça le sera, Fred, ça sera unique, inoubliable. Les Jeux vont être
Que ça le soit, et c'est en ce sens qu'on
est pas sûr,
Il faut faire confiance à Estanguet, ça le sera, et ses équipes, ça le sera, ça va marquer notre pays, l'histoire bien sûr du sport et des Jeux Olympiques. Cependant, là où je dis que ça doit être un symbole, ce symbole, c'est le symbole de la paix. Le premier des symboles des Jeux Olympiques, c'est la paix. Et j'ai envie de dire, par les temps qui courent, le symbole du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, qui est chaque fois incarné, souvent incarné par les sportifs. Savoir repousser le spectre de la défaite. Et donc, par ce biais-là, il faut que ce soit un sportif gagnant, bien entendu. Et qui mieux que Marie-Josée Pérec pour le faire? Tu me dis, tu voudrais que ça te surprenne, donc.
Non, un sportif que nous n'avons jamais... Que ce soit l'apothéose de cette cérémonie.
Ça sera l'apothéose.
Ça sera pourquoi? Parce que c'est un enjeu. Et parce qu'on est obligé que ce soit une apothéose.
Tu veux que je te donne un scoop, moi? Ça sera pas un homme politique.
Ah ben ça, c'est
parce qu'aujourd'hui, tout ce que je viens de te dire là, mais il l'incarne pas. Le fait de se respecter. Quand je vois ce qui se passe dans l'hémicycle en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est un véritable scandale. Donc ça sera déjà pas un homme politique. Donc ça sera un sportif. Parce que souvent le sportif, on va aller chercher pour incarner la paix, pour incarner comment dire la volonté de se dépasser, le goût à l'effort, respecter son adversaire. Ok, se préparer dignement, ne pas aller dans la tricherie, dans le dopage. Voilà ce que ça va incarner, le fait que cette vasque va être allumée par un nos sportif prestigieux. Et là, encore une fois, pour te rejoindre, il faut que ça soit merveilleux, gigantesque, mais t'as quand même besoin d'un sportif référent pour le faire et pour allumer la vasque in fine.
Mais on voit pas qui ça peut être. Le fait que ça soit un sportif constitue le fait que ça ne soit pas un enjeu.
C'est quand même les Jeux Olympiques.
Tu choisis un sportif et c'est logique et c'est normal. Alors, et je suis pas du tout
quand
en train de
c'est Cassius Clay, qui allume la vasque aux États-Unis.
Ça met des frissons encore, rien d'y penser. Alors, évidemment,
on est tous les trois d'accord, mais on parle de sémantique, mais on est tous les trois d'accord que pour nous, le dernier relayeur doit incarner le sport, donc un sportif. Après, si c'est un sportif qui a un message en particulier, qui incarne l'histoire de notre pays, comme ça l'a pu l'être Cathy Freeman en tant qu'aborigène en Australie, forcément c'est très fort. Mohamed Ali, forcément c'est très fort. Mais nous, alors à qui doit-on penser? À un ou une athlète qui, au-delà de ce qu'elle a représenté, de ce que cette personne a représenté dans le sport, porte un message plus fort que celui de son sport.
Mais alors, tu parlais de Marie-Josée Pérec et c'est très intéressant parce que tout le monde pense à elle, les médias pensent à elle, même elle a beaucoup été questionnée dessus, elle a accepté beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup vue ces dernières semaines.
Peut-être
Est-ce que tout ça, c'est pas un frein parce que...
La surprise serait pas là, c'est ça
La coutume, c'est qu'il y ait une énorme surprise, quoi. Et Marie-Josée Pérec, au final, oui, c'est l'une de nos plus grandes championnes.
Mais peut-être qu'on lui en a donné tellement avant pour compenser le fait qu'on n'avait déjà pas l'idée, en tout cas que Paris 2024 n'ait pas l'idée de la mettre en tant que dernier relayeur. Et donc, c'est peut-être pour compenser ça, probablement. Mais il faut que ça incarne un... Est-ce que vous vous souvenez qui a allumé le dernier relayeur à Albertville en 92?
C'est Michel Platini.
Exactement, c'est Michel Platini. On parle de sport d'hiver et on a mis un footballeur. Moi, ça, c'est des choses où j'arrive. Enfin,
je suis d'accord avec
le
toi.
Symbole, c'est quoi le symbole en fait? Tu vois?
L'image
donc,
que tu
pour moi, Zinedine Zidane qui n'est pas à Marseille. Alors là, mais c'est une faute. Mais alors, sauf si c'est lui qui refuse, hein, ok?
Mais Zinedine Zidane qui allume la. C'est lui le dernier, peut-être.
Oui, mais donc, et ben là, le symbole, je ne comprends pas. En fait, le symbole, je ne le comprendrai pas en fait. Je comprends. Le football n'est pas l'ADN des Jeux Olympiques, n'est pas l'histoire de la création des Jeux Olympiques dans la Grèce antique. Donc, quand on parle de symbole, allons-y jusqu'au bout. Quel symbole veut-on donner? Est-ce que c'est un symbole
de
2024 de la France, ou est-ce que c'est un symbole de ce que représentent les Jeux Olympiques et l'histoire des Jeux Olympiques?
Hormis Marie-Josée Pérec, t'as un nom, toi, à soumettre ou pas, Sarah?
Mais non, donc pour moi, c'est la médaille qu'elle n'a pas gagnée à Sydney.
Voilà. Main dans la main avec Marie-Josée Pérec, moi je trouverais ça magnifique.
Qui donc,
David Douillet, main dans la main avec Marie-Josée Pérec, je trouverais ça incroyable.
Oui, oui, ça a vraiment du sens. Oui,
bravo. Alors, je le disais, Tony Estanguet, président du comité d'organisation, a donné deux indices dans Ouest France à la question de savoir si la personne concernée était déjà au courant. Tony Estanguet a répondu non. Et on lui a demandé s'il est possible de porter deux fois la flamme, c'est-à-dire le relais dans toute la France et au moment le plus important de la cérémonie, donc le dernier relayeur. Il a répondu oui, voilà. Et on lui a demandé si ça pouvait être Zinedine Zidane et il a dit joker.
Donc ça peut être Jules aussi alors, parce qu'il l'a déjà fait, donc...
Ouais. Ça peut.
Alors, non, mais ça, si c'est ça, moi je fais grève de la faim et je viens pas au jeu. Là,
fais juste grève des Jeux Olympiques.
Tu vois, c'est grève des Jeux Olympiques.
Tu vois, c'est un enjeu. C'est un enjeu aussi et c'est pour ça qu'on en parle. Mohamed nous appelle au 32-16. Il veut participer à notre débat. Bonjour, Mohamed. Mohamed, une fois.
Bonjour, Jean-Christophe. Ah. Bonjour, Adam. Bonjour, messieurs.
Salut. Mohamed est avec nous. Ouais. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Alors, un enjeu ou un symbole?
Un symbole, je pense. Moi, hier, je vais vous expliquer rapidement le truc. Je suis sur la ville de Vers-sur-Marne, qui est un site olympique qui va servir au kayak.
Oui.
Et il y avait le passage de la flamme hier. Et on a un héros local qui s'appelle Olivier Giraud, ici, à Vers-sur-Marne.
Ah bah oui, bien
et,
sûr.
Quand
bien,
il y a eu le passage de la flamme, c'était secret, c'était une très belle fête. Ouais, que vous connaissez très bien chez vous, ouais. Et c'était une belle fête, bien organisée par la mairie. Je dis pas ça parce que j'y travaille, mais quand même. Et donc tout le monde s'attendait à voir Olivier Giraud arriver. Et quand on a vu arriver le porteur de la flamme, on a vu arriver un lambda, alors très agréable, souriant et tout, mais comme si le soufflet était retombé. Bah merde, c'est pas Olivier. Et je pense que pour allumer la vasque, si on n'a pas un grand athlète français, mais médaillé d'or aux Jeux Olympiques, par exemple. Je pense que c'est pareil, qu'on va passer à côté de quelque chose, les symboles, la paix, tout ça, pourquoi pas. Mais surtout ne pas perdre de vue qu'on a des grands athlètes qui ont été médailles d'or, Alain Bernard, Marie-Josée Pérec, David Douillet, et ainsi de suite, pourquoi pas Teddy Riner, et ne pas tomber dans un truc où, encore une fois, on va vouloir faire un truc où c'est exceptionnel et on va passer à côté. Donc les symboles, c'est important. Je vous dis, si ça avait été Olivier, hier, qui passe avec la flamme dans notre ville de Vers, ça aurait été extraordinaire. Ça n'a pas été le cas, le soufflet est un peu retombé. Je pense que pour allumer la vasque, si on passe à côté du vrai symbole, ça pourrait encore, on pourrait encore rater quelque chose.
On pourrait, donc c'est un enjeu. C'est-à-dire que si on peut rater quelque chose, si on est en position de rater ou de réussir, c'est que c'est un enjeu.
Oui, mais c'est là.
Les symboles ont servi de l'enjeu.
Si personne veut répondre à ma question, vous pouvez...
Mais non, mais parce que... Je suis d'accord, il faut des symboles pour réussir et donc c'est un enjeu.
C'est un enjeu symbolique, voilà. Est-ce que c'est un enjeu symbolique?
L'enjeu, c'est de respecter les symboles. Voilà, c'est tout.
Mais on est tous d'accord.
C'est tout simple.
C'est l'école des fans.
C'est l'école des fans. Mais on a tous 10 sur 10.
C'est ça, il faut que ça soit, comme vous le dites, et je suis assez d'accord avec vous, il faut que ça soit un sportif, bien entendu, qui a gagné aux Jeux Olympiques, et nous en avons beaucoup, on va pas en faire la longue liste, mais ça me semble important, voilà. Autre qu'un sportif, pour ma part, je serais déçu. Voilà. Peut-être que l'enjeu, c'est peut-être de témoigner de je ne sais quoi, mais si c'est pas un sportif qui a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques français, j'aurais du mal à l'entendre.
Bon, bah en tout cas, on vérifiera tout ça vendredi soir avec cette cérémonie d'ouverture, je le disais, sur RMC. Vous allez vivre vraiment 15 jours absolument fantastiques de 9h à 1h du matin, l'intégrale Paris 2024. Et puis à partir de 22h, l'after Jeux Olympiques. Bref, vous allez être gâtés sur RMC avec une radio digitale 100% bleue pour tout savoir tous les jours. Heure par heure, minute par minute, sur la performance et les performances de nos Français. Merci Mohamed d'avoir composé le 32-16. Il est 11h24, c'est le grand moment. Car vous avez pu jouer depuis une heure, plus d'une heure maintenant, pour remporter, écoutez-moi bien, une soirée de natation pour deux personnes. Le mercredi 31 juillet prochain, à la Défense Arena de Paris, avec des finales absolument exceptionnelles. On espère deux finales de Léon Marchand, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, les finales du 100 mètres hommes et femmes. Bref, s'il faut voir quelque chose en natation, c'est cette soirée du mercredi 31. Et nous avons l'identité du grand vainqueur, que l'on va appeler maintenant. Sachez-le, il s'appelle Hakim. On l'appelle maintenant. Tu vas décrocher quand même.
Bah oui, il faudrait qu'il décroche.
Non, s'il décroche pas, c'est pour nous. Hein. On tire
ouais,
au sort.
C'est pour nous. Hein.
Exactement, c'est pour nous s'il ne décroche pas. Tu as bien raison.
Et allô ?
Ah, ça a décroché. Oh. Bonjour, Hakim.
Oui, bon. bonjour.
Bon, qui est à l'appareil, Hakim ?
Là, c'est, ben, je crois que c'est les grandes gueules. Hein. C'est Jean-Christophe Drouet et tous les GG du sport.
Oh, il est fidèle à cette émission en plus.
Bravo, Hakim.
Hakim est avec nous. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle, Hakim ?
Oui, je crois. Ouais, c'est incroyable. Là, je... Je sais pas quoi dire.
Wow. C'est fou, tu viens de remporter un grille-pain. C'est pour ça que nous t'appelons. Tu viens de remporter deux places pour une soirée de natation absolument exceptionnelle, Hakim. Bravo.
Ah mais c'est de la folie là. C'est magnifique, c'est incroyable.
Bravo Hakim, t'as de la chance.
Oui, ben merci.
On est content pour toi, Hakim, vraiment.
Merci.
Hakim, t'es de région parisienne ?
Non, je suis dans la Meurthe-et-Moselle en ce moment là.
Okay.
Mais en plus, mais c'est un Lorrain. Mais félicitations, Hakim.
Et tu comptais venir sur Paris ou pas ? Est-ce que t'avais déjà des places ?
Non, j'avais pas de place, j'avais pas prévu justement le coup là, donc je suis halluciné. Maintenant,
bon, tu sais, maintenant, il va falloir s'organiser, c'est dans 10 jours. Hein.
Ouais, c'est ça, faut que ça va vite là.
T'étais en vacances à la base le 31 ou pas ?
Non, j'aurais eu des vacances plutôt mi-août, mais je vais poser quelques jours supplémentaires.
Ah bah oui, voilà. Tu vas faire un aller-retour à Paris, tranquillement, ça c'est génial. Est-ce que tu sais avec qui tu viens ou si vraiment ta personne
Je suis d'accord, je suis preneur. Pascal Duprat, je viens avec toi, Hakim.
Là, je passe
te prendre.
J'ai pas mal de personnes, j'aurais bien emmené ma fille, mais elle est trop petite, mais là... Ouais.
Ah, elle a quel âge?
Elle a 3 ans et demi.
Ah oui, c'est un peu raide.
J'aurais pu lui faire naître une passion pour la natation, mais voilà, mais elle est un peu trop petite, donc je vais difficilement, ça va être le choix, il va être dur quand même pour la personne que je vais emmener.
Ok, bon, en tout cas, tu sais que tu as le choix, en tout cas, et dans ces cas-là, souvent on a le choix, et comme on le dit avec Pascal, si tu as besoin, même nous, on vient te chercher en Meurthe-et-Moselle, hein, sans problème. Hein.
Absolument.
On prend l'autoroute dès tout à l'heure, parce que franchement, c'est l'une des soirées mémorables des Jeux Olympiques, et on l'espère avec un Léon Marchand exceptionnel. Bravo Hakim, et on te souhaite de bons Jeux Olympiques. Alors le 31, bravo, tu seras sur site, sinon évidemment, faut écouter RMC. On est bien d'accord, Hakim ?
On est bien d'accord.
Et tu sais quoi, Hakim ? On rajoute deux places VIP au Club France, à la grande halle de la Villette, car nous serons sur RMC tous les jours en direct du Club France. Donc il y aura beaucoup d'animation, la diffusion des épreuves, des concerts, la rencontre avec les athlètes. Et bien tout ça, c'est aussi pour toi, Hakim. Et tu pourras venir nous voir dans le studio RMC. Merci, Hakim.
Ah ben, avec grand plaisir. J'ai hâte de vous rencontrer et vous remercier. C'est incroyable.
Bravo, Hakim.
Profite.
Bravo.
Merci beaucoup, merci à tous, merci.
On est ému pour toi, Hakim. Profite bien, régale-toi et à bientôt. On te voit évidemment le 31 juillet à la Villette pour le Club France et pour RMC qui sera présent de 9h à 1h du matin. Rendez-vous compte, chers auditeurs. 11h28, le débat caché. Dans quelques instants, un débat caché de haute volée. Alors là, celui-là, il est obligé de vous faire réagir sur l'émotion. Vous ne savez rien et pourtant vous allez débattre dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Fred Weiss. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. Vous avez proposé un débat, mais GG, c'est extrêmement serré. Alors pas pour Sarah, je crois qu'elle l'a bien compris malheureusement, même si son débat était beau, hein, le relais de la femme, est-ce que ça manquait de sportifs. 20% seulement pour notre amie Sarah. Et sinon, vous partagez le gâteau, messieurs, toujours 40%. 40% pour vos deux débats, Alpine au fond du trou et Romain Bardet. Est-ce qu'il a eu la reconnaissance qu'il devait après cette carrière magnifique et ses pleurs hier, ses larmes après sa dernière étape de montagne dans sa carrière? Vous pouvez encore voter, vous avez 10 minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Elles vont devoir nous dire tout ce qu'elles ont sur le cœur. Pour l'instant, vous êtes dans le noir total. Et pourtant, il va falloir allumer la lumière. Le débat caché, le guet-apens du jour. Pas facile à trouver avec cet extrait. C'est ça.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
Alors pourquoi je vous...
Je suis très inquiet.
Le débat caché n'a rien à voir avec la cité de la peur, rassurez-vous. Ni avec l'alcoolisme, rassurez-vous. Mais peut-être avec un doigt. C'est une histoire totalement dingue que je vais vous conter. Elle concerne un hockeyeur australien. Il s'appelle Matthew Dawson. Et il a tout simplement décidé de se couper un bout de doigt pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors pour quelle raison, me direz-vous ? Eh bien, à quelques jours des JO, Matthew Dawson a eu la malchance de se blesser à l'annulaire droit, entorse, rendant sa participation au tournoi olympique très compromise. Alors là, après cette entorse, le vice-champion olympique de hockey sur gazon en 2021 avait deux choix. Soit le plâtre, et donc pas de JO, soit l'amputation d'un bout de doigt.
Vous l'aurez compris. Pour jouer dans l'équipe paralympique.
Non. Pour jouer dans l'équipe olympique. Parce que s'il choisit la seconde option, donc l'amputation,
oui.
Et ben comme ça, il n'a plus de bobo. Il n'a plus d'entorse.
Ah non, moi
il
je crois que c'était pour rentrer dans l'équipe paralympique.
Non, pas du tout.
Oui.
Pas du tout. C'est pour participer aux Jeux Olympiques. Et en fait, il s'est enlevé son bobo avec une amputation. Voici ce qu'il a déclaré. « Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre ma décision, mais j'avais toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision, non seulement pour jouer à Paris, mais aussi pour le futur. » Notre débat, après cette information que je viens de vous livrer et que vous prenez pleine poire quelque part, est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est inconscient ? Fred Weiss.
C'est génial.
Pascal Duprat.
C'est le petit doigt, ouais, c'est génial, allez.
Ok, allez. C'est génial. Sarah Pitkowski.
Je sais pas quoi répondre. Non, c'est pas génial.
On
quand
est bien
même.
D'accord qu'il fait les championnats, enfin les Jeux Olympiques, des valides.
Oui, des valides. On parle
oui,
bien
mais ce qui
valides.
N'empêche. Oui, mais attends, tu sais pourquoi ça peut être génial ? Parce qu'il peut peut-être être sûr de faire les Paralympiques en 2028 à Los Angeles.
Non, mais c'est un petit bout de doigt, hein, c'est pas tout le doigt, ça.
Par contre, je pige pas, mais enfin, bon.
Moi non plus, je pige pas.
Alors, qu'est-ce que vous ne pigez pas ? Dites-moi, je réponds à toutes vos questions.
Il a une entorse. D'ici le début des Jeux, elle aura guéri.
Non, parce que cette entorse voulait dire plâtre. Et avec un plâtre.
Plâtre sur un petit doigt, tu mets une attelle sur un petit doigt, ils ont bien des gants.
Sur l'annulaire.
Je crois que son sport est tellement spécifique avec le hockey qu'il ne pouvait pas disputer le tournoi olympique. Et donc, il ne voulait pas se priver de ça. Donc, comme je le disais, dans ces cas-là, eh bien, il a supprimé le problème. Et en supprimant le problème, il a supprimé l'entorse parce qu'il s'est supprimé un bout de doigt. Votre réaction comme ça, Fred Weiss.
Moi, je suis extrêmement fan. Alors, j'avais entendu parler de cette histoire, donc j'ai un petit coup d'avance sur mes partenaires. Mais moi, je trouve ça incroyable. Parce que ça veut dire que pour les Jeux Olympiques, on est prêt à tout. Alors, effectivement, on n'est pas prêt à se couper un bras, évidemment, mais se couper un morceau de doigt, juste par envie, pour avoir la possibilité de participer à des Jeux Olympiques, je trouve que c'est presque héroïque, parce que c'est tellement fantastique de faire les Jeux Olympiques, et c'est là qu'on se rend compte que les gens feraient n'importe quoi pour le faire. On a une chance incroyable quand on les fait. Et le mec a été prêt à faire ça, à s'amputer une partie du doigt. Alors, c'est pas tout le doigt, mais c'est l'annulaire. Moi, je suis estomaqué. Je sais pas si j'aurais fait. Je crois que j'aurais fait aussi. Mais
j'étais juste en train de me poser la question. Est-ce que je l'aurais fait?
Moi, je crois que j'aurais fait. Ça dépend quelle part de combien, parce que je sais pas exactement combien, quelle grandeur c'est. Mais sur le principe, ouais, il y a des choses qui sont importantes. Je pense que je préfère avoir un bout de doigt en moins et avoir fait les Jeux Olympiques.
Ok, donc tu l'aurais fait.
Je crois que je l'aurais fait, oui.
Ok, Sarah Pitkowski.
Bah non, je l'aurais pas fait. Mais tu sais, je vais faire du second degré. Tu sais, c'est le problème de ce joueur de hockey, c'est qu'il est roux. Il prend pas une bonne décision. C'est pas possible. Je viens de voir sa photo. C'est un rouquin australien. Non, je suis démunie. Je sais pas quoi te répondre. Ça me paraît tellement invraisemblable comme décision, se faire amputer quand même.
Enfin, ou alors il en avait marre de porter son alliance aussi. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet.
Ouais, mais apparemment il a demandé quand même l'avis à sa femme.
Donc
voilà,
t'as
je suis
du mal à comprendre ça, Sarah. Je sens que tu es un peu dans les cordes.
Ah ouais, là je suis dans. Je sais, là tu me. Ouais. Je sais pas quoi te répondre. Ça me semble tellement invraisemblable. Je l'aurais pas fait. Voilà. Si tu me poses la question, je l'aurais pas fait.
Pascal.
Bon, c'est facile de répondre aujourd'hui. J'ai plus de 60 ans, mais je reviens en 84 quand la France est championne olympique, tournoi football au State. Je crois que je l'aurais fait. Ouais, pour être sélectionné, je l'aurais fait. Ouais, genre, mais je me serais bien coupé un bout du petit doigt. Mais en fait, ce qui me plaît, c'est que c'est son acharnement à vouloir faire les Jeux Olympiques, donc pour défendre les couleurs de son équipe et de son pays. Et puis aussi, franchement, je dois l'avouer, ça me plaît parce qu'il doit être un peu fada, le mec.
Ah oui. Bon,
et comme il est un peu fou, ça me plaît aussi, voilà. Voilà, il fait pas les choses comme tout le monde. Et pour encore une fois participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, bien il est prêt à sacrifier un bout de son petit doigt. Ouais, bravo.
Mais voilà. En plus, il a déjà été médaillé. Ils ont déjà été médaillés d'argent à Tokyo.
Ce seront ses troisièmes Jeux Olympiques. Hein.
Ouais.
Ça doit être quelque chose d'extraordinaire.
C'est extraordinaire et c'est une histoire incroyable à raconter après. Enfin, je pense qu'on pourrait en tirer. Les Américains, franchement, ils seraient capables de tirer un film de ça, hein, sans aucun problème, parce que c'est le fait d'avoir tout fait, d'avoir tout tenté, de s'être mutilé le corps pour faire les Jeux Olympiques.
Troisième Jeux Olympiques, je le disais. D'ailleurs, il y a son sélectionneur qui a réagi après cette information. Il a évidemment salué cette décision. Il a dit « Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais lui l'a fait, donc c'est super. »
On a fait un porte-clés de son doigt et on est ravis d'avoir.
Avant qu'il le fasse, il avait l'assurance de son sélectionneur qu'il le sélectionnerait s'il se coupait le petit doigt. Il a eu l'assurance quand même.
Il avait l'assurance et justement, il est dans cette liste. Ils vont débuter leur tournoi olympique le 27 juillet.
Ça aurait été drôle. Qu'il se coupe le doigt, qu'il soit pas sélectionné,
mais vous savez
qu'il aurait pu le faire, c'est Raymond Domenech. Il a peut-être été inspiré parce qu'apparemment, c'est pas le premier Australien qui a fait ça pour jouer. Il y a un joueur de rugby à 13 qui, en 2018, s'était fait aussi couper le majeur pour pouvoir continuer à jouer au rugby à 13.
Ah ouais.
Donc, et puis là, on dit
c'est peut-être une coutume là-bas.
Ouais. Apparemment, c'est le chirurgien qui lui a proposé ces deux solutions.
Mais oui, tu supprimes le bobo, tu supprimes. Ah voilà. Oui. T'as plus d'entorse, t'as plus rien parce qu'on l'a enlevé.
Non, mais pour revenir à quelque chose de plus réel, je me pose quand même la question qu'une entorse puisse t'empêcher de tenir la crosse.
Oui. Ouais.
Enfin, moi, j'ai joué avec des entorses de la cheville sans aucun problème. Alors, et des entorses extrêmement graves.
Entorse de la cheville. Distinction ligamentaire, peut-être.
Et puis, tu joues, j'ai pas le rapport médical sous les yeux, mais tu joues avec un métier de main, comme le hockey. C'est-à-dire que est-ce que tu joues avec une entorse très grave?
J'ai joué avec une main cassée. Donc le basket, c'est un métier de main aussi un peu. Donc
au tennis, on a déjà vu des joueurs jouer avec les doigts, avec effectivement des entorses. Oui, des doigts qui sont bandés. Et pour tenir la raquette, t'as besoin aussi de tes mains et d'avoir la sensation.
Ça paraît quand même un peu excessif. C'est quand même extrême comme décision.
Oui, c'est quand même excessif.
Non, mais je veux dire, de la part du chirurgien.
C'est un peu irréversible.
Que lui le fasse parce qu'il aime les JO, parce qu'il a envie d'y aller, non, je trouve ça magnifique. Mais que le chirurgien lui dise, soit on te met un plat, soit on te coupe, je trouve que c'est un peu rapide quand même.
Ouais. J'irai pas voir le médecin.
Si jamais, si jamais t'es pas sélectionné, on te coupera autre chose.
Hein. Allez, on va arrêter sur ce débat. Je pense qu'on a déjà tout dit. Il y avait à boire et à manger, mais c'est pour ça que je vous aime, mes GG. Et puis c'est un débat caché. T'es pas mal, non?
T'es fou.
Ouais, c'est pas mal.
T'es fou, Jean-Christophe.
Bah oui, c'était sympa.
Complètement fou.
Allez, 11h40. On se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Et c'est extrêmement serré. Vous pouvez encore voter qui va s'imposer. Est-ce que c'est Pascal Dupraz? Est-ce que c'est Fred Veil? Ça tout de suite sur RMC.
Allez, on y va.
RMC.
C'est quoi ce cirque?
Les grandes gueules du sport.
T'es grand, Quentin. Tu es grand.
Jeanne et Serge.
C'est n'importe quoi. Il y en a marre.
Je suis que consultant radio.
Bonjour. Donnez-lui ses cachettes.
Est-ce que vous êtes conquis ou pas?
Jean-Christophe Drouet.
Et évidemment, tous nos consultants que vous allez retrouver durant les Jeux Olympiques. Ça commence dès demain avec l'intégrale JO Paris 2024. Ce sera le cas toute la semaine avec, évidemment, vendredi, la cérémonie d'ouverture tout au long de la journée et à partir de samedi 9h, 1h du matin. Vous n'allez rien manquer de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça va être absolument exceptionnel. Toujours avec Fred Weiss, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski pour les 10 dernières minutes des grandes gueules du sport. Cette saison, on revient après, évidemment, les Jeux Olympiques le week-end du 17 et 18 août. Tout de suite, c'est à vous de jouer, BGG.
RMC, les GG contre-attaque.
Trois débats ce matin proposés par nos GG, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Fred Veil. Ça a été extrêmement serré entre Fred et Pascal, mais j'ai l'identité du vainqueur. Alors Sarah a terminé à la dernière place. Troisième place, mais tout de même sur le podium, hein, même que trois participants, mais ça vaut quand même une médaille de bronze. 20% pour le relais de la flamme. Est-ce que ça manquait de sportifs? Ça n'a pas eu le plébiscite escompté, ma chère.
Je ne savais pas si c'était une blague. C'était pas une blague, c'était un lapsus.
Bien sûr, c'était une vanne.
Ah bon.
Non, c'était un lapsus. Mais je vais me nettoyer la bouche tout de suite. Et puis alors, je le disais, extrêmement serré entre Pascal Dupraz et Fred Weiss. Il y avait Alpine au fond du trou pour Fred et Romain Bardet, la reconnaissance de la France. Est-ce qu'il a eu assez de reconnaissance, notre ami Romain Bardet, qui va terminer son dernier Tour de France, le dernier Tour de France de sa carrière? 39% pour Alpine, 41% pour Romain Bardet. Victoire à l'arraché au buzzer de Pascal Dupraz.
Je crois que c'est ma première victoire.
C'est vrai?
Ouais, je crois que c'est ma première victoire. Je me fais toujours torcher, deuxième, troisième, jamais quatrième, mais je me fais toujours torcher. Et souvent,
l'avantage,
Fred, hein. Fred, il me défonce tout le temps.
Alors, honnêtement, ça aurait été un souhait de ma part, évidemment, mais là, il pouvait pas terminer quatrième, de toute façon, Pascal. On était trois, donc c'était l'avantage.
Ça, c'était vraiment des escroqueries, je suis d'accord. Ça.
Non, mais j'espère que t'as la défaite, comment dire.
Je suis très content pour toi, merci. Et en plus, le sujet choisi était parfait.
Ça n'a rien à voir avec Christophe Cessieux quand il perd.
Il m'a tué. Non mais Christophe Cessieux, s'il était là, ça serait encore mieux parce que il serait content de moi. J'ai parlé de vélo.
Ah bah justement, Christophe Cessieux, il vient de nous appeler. Christophe Cessieux, t'es là?
Non, il est là.
Je ne perds. Vous saurez que je ne perds jamais à ce jeu-là. Hein, vous
c'est
profitez
vrai.
Que oui, je suis bon, pas là pour vous mettre des peignets. Mais attendez que je revienne, les gars. Vous allez voir.
T'as très bon suiveur sur ton.
Ah oui, oui. Les Mika, les bras d'honneur, les Julien et toute la bande. Celles qui sont venus sur le tour, ils sont venus nous dire bonjour. Et je leur ai remis un peu quelques chèques. Quand même. Hein.
Ah ouais, c'est ça.
Alors, parlons de Romain Bardet. Christophe, tu es avec nous parce que justement, Pascal s'est imposé. Vous voulez parler de la reconnaissance de Romain Bardet. Alors, pourquoi ce débat? Surtout parce que Pascal, hier, après l'arrivée de cette 20e étape, tu as entendu ça dans la bouche de Romain Bardet.
C'est tellement dur, c'est l'histoire de ma carrière, se battre sans jamais être le meilleur, mais jamais baisser les bras. Voilà. Je sais pas de quoi sera fait l'après. C'est addictif, on se fait mal, on prend des claques tous les jours, mais on revient. Et voilà. Ma femme m'a dit quand sera dur, aujourd'hui tu penseras à ton fils, à nous, mais t'as le droit de te faire plaisir une dernière fois et tout donner. Elle savait que ça me pesait depuis 10 ans sur le tour chaque année, mais puisque j'avais eu mal avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai pas trop pensé pendant la course, mais là, voilà, maintenant je vois, j'ai passé la ligne, c'est fini et spécial.
Le discours extrêmement poignant de Romain Bardet hier, lui qui a terminé 10e de cette étape, il a fait la course devant, mais malheureusement, il ne l'a pas pu s'imposer. C'est à l'image, dit-il, de sa carrière. À toi de jouer, Pascal Dupraz.
Bah en fait, quand je le réécoute, j'ai encore les larmes qui me montent. Alors qu'hier, en direct, franchement, je les avais. Et là, je les ai encore, tellement c'était poignant. Donc, il m'est venu tout de suite, après cette interview, cette question-là. Est-ce qu'en fait, Romain Bardet, il a la reconnaissance du public français qu'il mérite? Parce que si on le compare à Alaphilippe et Thibaut Pinot, moi, j'ai l'impression qu'il est en déficit de reconnaissance par rapport aux deux coureurs que je viens de citer. Pour autant, hier, c'était donc sa dernière étape en ligne du Tour de France, de sa carrière, puisqu'il a annoncé qu'il arrêterait à l'issue du critérium du Dauphiné libéré l'été prochain. Et donc cette étape où il est parti avec 9 de ses co-échappés, il est parti très tôt hier, il a tout donné comme à son habitude, il a fini 10e de l'étape, et puis il a aussi cette phrase à la fin, quand il se fait dépasser par les cadors, il dit, c'est l'image de ma carrière, un train qui passe et mon histoire qui s'arrête. En fait, il a conscience qu'il a jamais été le meilleur, mais il a toujours été là, au prix de nombreux sacrifices. Je rappelle qu'il a été une fois consécutivement deuxième et troisième du Tour de France en 2016 et 2017. Je parle sous couvert de Christophe. Il m'arrête si je me trompe. Il a gagné 4 victoires d'étape dans le Tour de France. Et d'ailleurs, le clin d'œil, c'est que la première étape arrivée à Rimini cette année, eh bien, il revêt pour la première et unique fois de sa carrière le maillot jaune en gagnant l'étape, bien aidé par son coéquipier.
C'est pas justement à cause de ça, parce qu'il n'y a pas eu d'épopée en jaune, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas la reconnaissance.
Mais je trouve que ce coureur, il incarne le cyclisme moderne. Ce coureur, il incarne la résilience. Il est juste en dessous des autres. Il a failli, hein, quand il finit deuxième du tour et troisième du tour. Et à cette époque-là, il y avait aussi Thibaut Pinot, mais on pensait qu'il était capable de gagner et de supplanter l'illustre Hino, en tout cas l'effacer des tablettes. Donc ce coureur, il incarne pour moi le vélo, il incarne le dépassement, le goût à l'effort, la sympathie, il incarne la famille, c'est le bon français, il parle toujours de sa femme, de ses gamins. La dernière fois, j'ai vu un reportage sur ses parents qui étaient tout le temps derrière lui. En fait, il me fait penser à tous ces sportifs qui réussissent, mais qui sont pas au firmament de leur sport, qui touchent presque le Graal, mais qui l'obtiennent jamais. Donc, chapeau à lui, chapeau à Romain Bardet. J'ai qu'une envie, c'est de le saluer, et j'y serai lors du Dauphiné libéré l'année prochaine, quand il finira sa carrière et qu'il bouclera la boucle. Chapeau, champion.
Chapeau, voilà le message de Pascal Duprat pour Romain Bardet. Et puis aussi cette question, cette reconnaissance, toi Christophe, qui suis depuis de nombreuses années ce Tour de France. C'est vrai, on l'a déjà dit, il est derrière en termes de popularité, derrière les Pinot, derrière les Alaphilippe. Est-ce qu'il y a quand même une bascule cette année, ou en tout cas malheureusement une bascule qui intervient trop tard, c'est-à-dire c'est quand il annonce qu'il va s'arrêter qu'on s'intéresse à lui, Christophe?
On s'intéresse à lui parce que son année 2024 a été exceptionnelle. Il n'y a pas eu que le Tour de France. C'est vrai que le Tour de France, il y a eu cette victoire d'étape et ce maillot jaune et cette dernière étape hier, dernière étape de montagne et cette déclaration. Franchement, on avait tous les larmes aux yeux hier lorsque on a pris ça dans la gueule en l'écoutant, et on était tous dans le camion. On avait tous les yeux qui brillaient. C'était vraiment étonnant. Et il n'y a pas eu que ça cette saison. Il y a eu aussi cette deuxième place dans Liège-Bastogne-Liège. Il est battu là aussi par Pogacar, mais on sent qu'il donne tout, il va au bout. Et ce garçon, en fait, c'est ça. Il a réussi à exploiter la quintessence de ses moyens, qui n'étaient pas les mêmes que ceux d'un Pogacar, d'un Vingegaard et d'autres. Mais voilà, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est humble, eh bien, il a réussi une carrière exceptionnelle. Alors évidemment, il ne fait pas vibrer les foules comme le faisait Thibaut. C'est pas des envolées lyriques dans l'école. Il n'a pas la même passion, le même punch qu'un Alaphilippe. Mais franchement, ce garçon, il va nous manquer. Ils vont tous nous manquer, les trois. Quand Julien arrêtera lui aussi, parce que c'était une génération exceptionnelle. Ils nous ont fait vibrer pendant des années. Et ce soir, quand Romain va poser son vélo sur le Tour de France, eh bien, on sera tous un peu tristes. Et franchement, cette dernière année a été exceptionnelle pour lui. Et je pense que la reconnaissance du public, il l'aura éternellement, en partie grâce à cette dernière saison.
Oui, ça lui a fait du bien aussi de ne plus être sur un tour avec Thibaut Pinot, qui trustait un petit peu les foules durant la montagne. Et c'est vrai que peut-être que cette année, sans jouer le général, il s'est aussi un petit petit peu découvert. Ouais, mais, alors, JC d'ailleurs avant le tour. Hein.
JC, ils se sont construits aussi. Tu sais, on parlait tout à l'heure dans le début d'émission de Pogacar et Vingegaard. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, c'est un peu pareil avec Bardet et Pinot parce que ils sont de la même génération. Ils se sont toujours, on les a toujours opposés alors que franchement, ils sont complètement différents. Mais voilà, ça a été une rivalité au sein du cyclisme français et je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que quand on parlera de Bardet, on parlera forcément de Pinot et l'inverse.
Votre regard, Fred Weiss et Sarah.
Alors honnêtement, quand j'ai entendu ça, moi aussi j'avais les larmes aux yeux, alors que je suis pas vraiment ce genre de mec, mais c'est très impressionnant de se dire qu'il s'est battu toute sa vie, qu'il savait qu'il y avait meilleur que lui, et que malgré ça, il a jamais lâché l'affaire. Il a toujours été là, il s'est battu tout le temps.
Puis une hygiène de vie incroyable.
Hein, un mec qui a l'air exceptionnellement sympathique.
Ouais.
Qui quand il parle de sa famille, c'est magnifique. Franchement, j'ai que des éloges à lui faire. Et effectivement, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je pense que cette petite épopée en jaune, alors oui, il a bien fini au général, mais cette petite épopée en jaune aurait peut-être permis qu'il soit encore plus reconnu par le public. Mais concrètement, ce coureur est un coureur fantastique et c'est une grande tristesse de le voir partir parce que vraiment, ces propos là qu'il a tenus, ça m'a vraiment ému.
Avant d'écouter Sarah, je vous donne quand même son palmarès sur le Tour de France, hein, parce qu'il a toujours voulu chercher, hormis cette année, le classement général. 15e en 2013, 6e en 2014, 9e en 2015, 2e en 2016, 17e, 3e en 2017, 6e en 2018, 15e en 2019, 6e en 2022. Et là, il ne joue pas le général. Il a une victoire d'étape, le maillot jaune, et il finit quand même 30e du Tour. Sarah.
Oui, c'est. Alors, je vais reprendre ce que dit Christophe, c'est que ce coureur Romain Bardet, qu'effectivement, j'ai pas suivi plus que ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'éclat, mis à part le général sur le Tour de France, c'est peut-être moins exubérant qu'un Alaphilippe ou Pinot dans une autre mesure, mais je vais vous faire une comparaison. En fait, ce sont ces trois garçons-là qui sont de la même génération à un an près. En fait, je présume qu'ils se sont tirés vers le haut. Ils ont porté le cyclisme français. On voulait qu'ils gagnent des grandes courses, mais ils sont aussi tombés contre des adversaires incroyables. Et vous voyez peut-être venir, j'ai une petite comparaison avec les mousquetaires du tennis, qui étaient une génération incroyable aussi, qu'on voulait voir gagner des grands chelems, qui ont marqué le tennis. Mais ils se sont tous les quatre portés aussi, ils ont grandi ensemble et j'aime bien cette comparaison avec ce groupe de trois et ils ont des caractères différents et des carrières différentes mais comme ils avaient des aspérités différentes, ben, y en a peut-être qui sont passés un peu au-dessus entre Alaphilippe et Pinot et que Bardet incarnait peut-être plus la réserve, la timidité mais je trouve qu'ils incarnent tous les trois le cyclisme français, voilà.
Sarah, je trouve que ta conclusion elle est parfaite parce que en plus il y a eu les mêmes critiques à l'encontre de Pinot, de Bardet, qui avaient envers Tsonga, Gasquet et les autres. C'est-à-dire que on avait des pépites, mais on aurait bien voulu qu'ils gagnent un jour Roland Garros ou alors gagnent un jour le Tour de France. Ils n'y sont jamais parvenus ni les uns ni les autres, parce qu'ils étaient à un niveau juste en dessous. Et on les a critiqués tout au long de leur carrière. Ça a été la même chose en tennis et en vélo. Et aujourd'hui, on les regrette. On regrette aujourd'hui les mousquetaires,
comme on va regretter.
Exactement.
Ouais, c'est souvent ça. Ouais.
Eh bien, voilà.
Tu verras, Pascal, comment on va nous regretter quand on va arrêter. Ça va être terrible.
Je sais pas si on ira sur cette
comparaison. Ça n'arrivera jamais. Ne te réjouis pas, ça n'arrivera pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'on va les regretter. 5 minutes, mais on va les regretter. Christophe, c'est sûr. On te retrouve pour la dernière étape ce soir. Importante, ouais. C'est le contre-la-montre, même si rien ne va se jouer. Mais si, il y a quand même un énorme enjeu, c'est de gagner une étape sur le Tour de France. Et ça va être extrêmement serré. C'est à partir de 16h dans l'intégral Tour avec toi, Christophe.
Il n'y a pas beaucoup de suspense.
Exactement. Non, il n'y a pas beaucoup de suspense. Si, il y a du suspense sur la victoire d'étape. Est-ce qu'ils vont gagner une sixième, le petit cannibale? Franchement, ce contre-la-montre lui correspond parfaitement. Ouais, mais il a été battu par Remco lors du premier chrono. Donc, on verra tout à l'heure. En tout cas, vous allez vous en mettre plein les yeux, vous allez vous en mettre plein les oreilles parce que c'est magnifique entre Monaco et Nice. Sur la corniche, on va monter à la Turbie, on va monter le Col d'Aise avec la Méditerranée là-bas sur la gauche. Ça va être sublime. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, effectivement, mais franchement, c'est un régal et c'est quand même autre chose que cette étape petit four champagne traditionnel des Champs-Élysées. Là, franchement, on a un décor exceptionnel et en plus, il y a quand même de l'enjeu dans cette
étape. Je te rejoins, bravo.
Je vous rappelle que Christophe Cessieux est niçois, évidemment. Merci, Christophe.
On peut lui dire bon appétit, hein, parce que j'imagine que le banquet va être extraordinaire à midi.
Je viens de me faire un petit pambagna, là.
C'est que l'apéro. 11h57, vous connaissez hein, l'âge de Christophe. Il a déjà mangé depuis quelques minutes. Merci, Christophe, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir, évidemment, de t'avoir dans cette émission et de te suivre, évidemment, et de t'entendre sur le Tour de France, nous faire vivre ce tour, encore une fois, magnifique Tour 2024. L'épilogue, c'est donc tout à l'heure à partir de 16h. Merci, les autres GG. Pascal Duprat, Fred Weiss. Les GG, c'est terminé pour cette saison, car à partir de samedi prochain, il y aura les Jeux Olympiques, samedi, dimanche prochain. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons là, de retour, fidèles, dans ce studio RMC, à partir du samedi 17 août. Merci beaucoup, les GG. Merci à vous, chers auditeurs. On vous embrasse tendrement. Et surtout, oui, il n'y a plus de GG durant un petit mois, allez, un tout petit mois. Mais là, il y a les Jeux Olympiques et ça commence dès demain sur RMC avec vendredi la cérémonie d'ouverture. On vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les paris RMC. On va parler du Tour de France et de cette dernière étape, mais également des Jeux Olympiques. Passez une très belle journée car ça va être une très belle journée sur RMC. Allez, à tout de suite.
RMC, Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-5.